un podcast France Culture.
On fait grève, on propose de faire une grève pour que les femmes se rendent compte de ce qui se passerait si elles s'arrêtaient. Et si je m'arrêtais de m'occuper de mon mari, et si je m'arrêtais de travailler, comme certaines femmes le font, 15-16 heures par jour entre le travail à l'industrie, au bureau et le travail à la maison, qu'est-ce qui se passerait? Qu'elles prennent conscience qu'elles ont un pouvoir, que nous avons un pouvoir, et qu'on peut arrêter le système qui nous fait travailler bon, comme des cerfs.
Quand même, on a deux femmes, il y en a une qui est au ministère de la Santé et l'autre au ministère des Femmes. Alors c'est encore une fois les tâches traditionnelles des femmes, c'est leur nature de soigner les gens, c'est leur nature d'être féminine, et ça, je crois que vraiment la grève, c'est aussi contre cette idée de nature qui prédestinerait les femmes, même quand elles sont ministres, à l'être pour ce qui est considéré dans notre société comme secondaire.
C'est la grève des femmes, il y en a marre de leur vie, de leur promotion, de leur viol, de leur lit, de leur maison. C'est la grève des femmes, on est bien réunis et plus besoin d'eux, on peut enfin s'aimer entre nous, c'est mieux.
C'est la grève des femmes, l'appel qui résonnait déjà en 1974, on vient de l'entendre, prend une nouvelle tournure en 2024. Pour la première fois, 5 organisations syndicales ont appelé à faire grève ce 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et c'est peu dire que les revendications sont nombreuses. Les salaires des femmes sont d'un quart inférieurs à ceux des hommes, tout temps de travail confondu. 6 cadres sur 10 sont des hommes. Les métiers dits de service sont majoritairement occupés par les femmes. Et 58% des smicards sont en réalité des smicards. Ces constats, formulés année après année, interrogent sur les politiques et les combats menés au nom de l'égalité entre femmes et hommes sur le marché du travail. Pourquoi les femmes doivent-elles encore défendre leurs droits au travail? Quotas, syndicats, comment se structure et évolue le combat? Que revendiquent les femmes au travail? Quels leviers sont mobilisés pour les faire entendre et respecter? Et surtout, quels résultats observés dans les bureaux, les entreprises et les usines? Pour en parler, nous recevons 4 invités. Safia Doumain, que vous êtes sociologue, post-doctorante à l'Institut de Recherche Économique et Sociale. Vous êtes l'autrice d'une thèse intitulée « Sociogenèse de l'engagement syndical en milieu populaire », une enquête auprès de travailleuses du nettoyage à Lyon et à Marseille. Et vous êtes avec nous à distance depuis les studios de France Bleu à Lyon. Également à distance, mais depuis les studios de France Bleu à Nantes cette fois, Ève Meret-Canfort, vous êtes sociologue et autrice de « Lutter comme les mecs », le genre du militantisme ouvrier dans une usine de femmes, paru aux éditions du Croquant en 2021. Autour de la table cette fois en studio avec nous, Anne Boring, vous êtes économiste, directrice de la chaire pour l'emploi et l'entrepreneuriat des femmes de Sciences Po et professeure associée à l'Erasmus School of Economics à l'Université de Rotterdam. Sophie Pochic, enfin, vous êtes sociologue du travail et du genre, directrice de recherche au CNRS et membre du Haut Conseil à l'égalité, autrice de 2 ouvrages, le premier « Quantifier l'égalité au travail » paru aux presses universitaires de Rennes en 2021 et la même année, l'ouvrage « Le genre au travail », mais ça, c'était aux éditions Cileps. Bienvenue à toutes les 4.
Bonjour.
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 Alors pour commencer, Anne Boring, et peut-être pour établir un état des lieux, des inégalités de genre au travail, j'ai évoqué en introduction quelques chiffres, mais de quoi parle-t-on très concrètement quand on parle d'inégalités de genre au travail? Et quel regard porter sur leur évolution? Est-ce que les choses s'améliorent ou est-ce qu'au contraire on observe une forme de stagnation selon vous?
Alors il y a plusieurs chiffres qu'on peut mettre en avant pour étudier l'égalité sur le marché du travail, notamment l'égalité salariale. Donc ça c'est le chiffre qui est le plus utilisé, et là aussi ça dépend de la manière dont on le compte. Donc si on prend le volume de travail effectué par les hommes et par les femmes et qu'on mesure les inégalités salariales, là les inégalités sont assez élevées, donc selon la façon dont on mesure, on est autour de entre 24% ou 30% d'inégalité sur le marché du travail. Mais une des raisons pour lesquelles cet écart est aussi important, c'est parce que les femmes ont une participation plus faible au marché du travail, environ 11% plus faible. Elles sont davantage à temps partiel. Ce temps partiel peut être choisi, mais aussi subi. Donc là, c'est aussi quelque chose d'important. Je pense qu'on va discuter au cours de l'émission. Et elles sont davantage absentes du marché du travail, notamment au moment de la maternité. Donc si on corrige pour le fait que les femmes sont moins présentes sur le marché du travail, là, on a des inégalités salariales autour de 16%. Et parfois, on entend aussi le chiffre de 4%. Donc ça, c'est à poste égal. Mais ça, ça masque complètement le fait que les trajectoires de carrière des hommes et des femmes sont très différents. Donc à poste égal, en fait, on ne prend plus en compte le fait qu'une femme qui n'aurait pas subi des discriminations au cours de sa carrière n'ait pas un poste plus élevé que celui auquel elle se trouve.
Sophie Pochic, on le disait, ce 8 mars, c'est aussi une journée de mobilisation inédite. Quelles sont les revendications des femmes en grève aujourd'hui?
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, vous l'avez souligné, c'est un appel intersyndical à la grève féministe. Ça relie les thèmes que vous avez présentés au départ, l'inégalité salariale, mais aussi toute la question de la revalorisation des métiers féminisés qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Toute la reconnaissance du travail reproductif, ce travail domestique gratuit, mais aussi d'aide des personnes dépendantes. Donc c'est un mouvement, l'appel à la grève féministe, c'est un mouvement international. Je ne sais pas si les auditeurs le savent, c'est porté par la quatrième vague du féminisme. On l'a vu notamment apparaître en Argentine, en Espagne, en Suisse. C'est souvent co-organisé, associations féministes et organisations syndicales, avec l'idée, par ce jour, vraiment rappeler à quel point les femmes sont au centre de l'activité par le travail reproductif et productif, qui est la base du système capitaliste. Et c'est basé aussi sur des théorisations féministes qui progressivement ont un peu aidé à structurer cette grève féministe.
Et on va effectivement en parler tout au long de l'émission. Ève Murray-Camphort, vous avez le regard d'une sociologue avec un prisme assez historique, puisque vous avez étudié de près les mobilisations de femmes ouvrières dès les années 70. Quel regard portez-vous sur le fait que les femmes aient encore à se battre à ce niveau-là, au niveau de leur reconnaissance vis-à-vis du monde économique? Est-ce qu'il faut y voir une forme de piétinement, selon vous ?
Oui, vous posiez la question de l'évolution et de la stagnation. C'est vrai qu'on peut avoir, quand on regarde dans l'histoire, un sentiment, notamment enfin depuis l'après-guerre, disons, de stagnation, parce qu'on a l'impression que les mêmes problématiques sont remises sur la table constamment. Mmh. Après, évidemment, quand on regarde la réalité des choses, le monde du travail pour les femmes a énormément changé. Leurs places sont plus maintenant dans le tertiaire, de manière encore plus forte que par le passé. Donc les revendications évoluent forcément avec le temps. Mais les problèmes de fond, parce qu'ils sont liés notamment à des problématiques, disons, de naturalisation du travail, etc. J'imagine aussi qu'on va en parler, persiste constamment. Oui.
Safia Doumenc, les enjeux des mobilisations des femmes, on l'a entendu dans la bouche de Sophie Pochic, sont aussi liés à une idée de reconnaissance du travail. Vous avez plus spécifiquement étudié le cas de femmes de ménage grévistes à Marseille et à Lyon. Et vous le dites dans vos articles, il n'y a pas que le salaire qui fait partie des revendications, il y a aussi un enjeu majeur de reconnaissance pour ces femmes.
Oui, tout à fait. Alors le salaire, c'est quand même un enjeu aussi très important, puisque dans le nettoyage, mais ça on y reviendra aussi sans doute, mais une des grandes problématiques des salariés du secteur du nettoyage, c'est qu'elles sont dans le monde hôtelier, dans l'hôtellerie, payées à la tâche, donc payées au nombre de chambres qu'elles vont nettoyer. C'est pas toujours le cas, mais c'est fréquemment le cas, et c'est une pratique qui est illicite. Donc il y a quand même des enjeux de salaire, puisque voilà, elles réclament justement un paiement à l'heure passée au travail et non pas à la tâche. Mais comme vous le dites, il y a aussi des enjeux de reconnaissance, notamment des enjeux de reconnaissance de diverses pénibilités, parce qu'on associe souvent les pénibilités au travail à des métiers plutôt ouvriers masculins, qui sont du coup compensés aussi financièrement. Et c'est vrai que les métiers plus féminins, enfin, on a plutôt tendance à minimiser un peu les pénibilités, on va dire matérielles, physiques au travail, alors que précisément, enfin, il y en a aussi énormément dans le nettoyage, dans l'aide à domicile, enfin, dans tout un tas de secteurs féminins. Mmh. Et une autre pénibilité d'ordre plutôt symbolique cette fois, c'est aussi toute l'invisibilisation du travail de ces femmes aussi, qui sont reléguées. Alors moi c'est moins ce que j'ai travaillé, mais d'autres des invités présentes ici
l'ont fait, l'abordent.
Mais cette question aussi du travail, de l'invisibilité du travail domestique, quoi. Enfin, donc voilà.
Et qui échappe donc au filet aussi de la mesure finalement de ces inégalités. Et ça, c'est un point extrêmement important, de savoir comment on prend en compte les inégalités, à partir de quels chiffres on tire nos conclusions. Chaque année, il y a un index qui est publié, qui est intitulé l'index Pénicaud, et qui est publié chaque 8 mars, et qui engage normalement chaque entreprise de plus de 50 salariés. Cette année, la note est de 88 sur 100. Anne Boring, est-ce que c'est une bonne note ? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette note ?
Alors, cette note augmente au fur et à mesure des années. Et on voit, si on compare la France par rapport à d'autres pays qui ont moins de contraintes sur les entreprises en termes de transparence, des initiatives qu'elles mettent en place pour favoriser l'égalité professionnelle, la France s'en sort plutôt pas mal. Néanmoins, il y a encore beaucoup à faire, très clairement. Alors d'une part, il y a la question des grandes entreprises par rapport aux plus petites entreprises. Les femmes travaillent davantage dans des plus petites entreprises qui sont moins rémunératrices que les grandes entreprises. Mais c'est vrai que les inégalités sont aussi très importantes au sein des grandes entreprises. Donc la question se pose aussi de à quel niveau est-ce qu'on met le point de comparaison au sein de ces grandes entreprises? Est-ce qu'on compare à poste égal, etc. Donc l'index Pénico a essayé justement de trouver un équilibre pour à la fois prendre en compte les rémunérations les plus fortes où il y a des immenses inégalités, juste parce que ce sont des rémunérations qui sont vraiment très élevées, mais aussi en regardant les évolutions de carrière et notamment le retour de la maternité et à quel point est-ce que les femmes sont pénalisées lorsqu'elles reviennent de la maternité. Et on voit que les entreprises mettent en place des mesures, mais pas toutes les entreprises. Et puis, je pense que Sophie va en parler aussi, mais il y a des mesures de contournement que les entreprises mettent en place pour avoir un bon index, alors qu'en réalité, elles ne performent pas toujours aussi bien que ce qu'elles montrent.
Effectivement, je crois que cet index est sujet à polémique. Hier, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a publié d'ailleurs un rapport qui dresse un bilan assez mitigé de l'index. Quelles sont les insuffisances de cet outil qui a pourtant été mis en place depuis 2019, donc quelques années plus tard? Quel bilan on peut en faire, Sophie Pochic?
Donc oui, ce rapport du Haut Conseil à l'égalité, il est issu d'un travail que nous avons réalisé conjointement pendant un an, avec aussi bien les études, des auditions d'organisations syndicales, de représentants des employeurs. En fait, il a le rapport, donc il est en ligne, il est assez dense, mais en gros, il dit le fait d'obliger à chiffrer avec une méthode standardisée, outil de contrôle, avec un objectif de résultat, puisqu'il est associé à une sanction. Ça a eu un effet quand même positif, puisque ça a permis, par exemple, le fait qu'il est multifactoriel, de dire, pour aller vers l'égalité de rémunération, il faut par exemple appliquer la non-discrimination salariale à la grossesse, comme vient de le dire Anne. Il faut s'intéresser aux hautes rémunérations, regarder les augmentations salariales, qui est égalité des genres dans les augmentations salariales. Donc, c'est l'aspect positif. L'outil existe et il vise à progresser. Mais le rapport dit le bilan est mitigé, puisque déjà, ça n'a eu aucun effet sur les écarts de rémunération réels. Les écarts de rémunération réels sont stables. Même parmi les cadres, c'est toujours à 15% d'écart et ça n'a pas évolué depuis 15 ans. Donc, l'effet de levier, il est pour l'instant pas totalement réussi. Et une des raisons, nous le montrons, c'est les conventions statistiques qui ont été choisies, en fait, ont tendance à créer un index qui produit des bonnes notes. Donc, je sais que, par exemple, à Radio France, vous avez eu 94 sur 100, félicitations. Ouais. Mais peut-être qu'en écart de rémunération réel, ce n'est pas tout à fait la panacée. Et donc, ça a été associé aussi à un seuil de 75 sur 100, déclenchement des sanctions. Et donc, ça a eu un effet plutôt de ralentisseur, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui avaient plus de 75 sur 100 se sont dit, eh bien donc, il n'y a plus de problème d'inégalité salariale, alors que c'était le seuil minimal de sanctions et que l'objectif visé, c'est d'avoir 100, puisqu'on mesure des écarts, donc il reste des écarts. En plus, il y avait des conventions statistiques, là, quand on creuse, tout écart de supérieur à 5% était enlevé, et deux facteurs principaux des écarts de rémunération qui ont été évoqués tout à l'heure en introduction. Le temps partiel, il n'est pas intégré. Et la sous-valorisation des métiers rémunérés qui a été évoquée par Safia Doumainc, le fait que les métiers de soins, les métiers de subalternes soient très mal payés, plutôt au SMIC, cette dimension-là n'est pas intégrée. Et donc, juste en termes de construction, l'indicateur, par exemple, un indicateur qui sort en rouge, c'est le nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations. Certes, c'est important. Donc, mais si on avait mis un indicateur qui était la concentration des femmes dans les 10% des plus bas salaires, il serait sorti en rouge et peut-être qu'il aurait été objet d'action. Donc, le Haut Conseil, donc c'est il y a des représentants d'organisations patronales, d'organisations syndicales. Ce n'est pas simple de les faire arriver à des préconisations communes. Et pourtant, le rapport, il y a un consensus pour dire il faut un outil. Il faut que cet outil anticipe la directive transparence salariale, mais peut-être Anne nous en parlera après. Et puis, il n'est pas bien calculé pour les PME. Et donc, c'est une charge administrative assez lourde pour les petites entreprises. Peut-être faut-il le déléguer à la puissance publique, puisque les entreprises déclarent de toute façon leurs données sociales. Et donc, il y a l'idée que les pouvoirs publics pourraient mesurer l'indicateur de manière plus, mieux, avec moins de biais. Et puis, à ce moment-là, en faire vraiment un outil, notamment de levier pour la négociation collective. On reviendra sur ce point.
Mais c'est ça qui est intéressant aussi, au-delà des questions purement méthodologiques, c'est que c'est des textes, ou en tout cas des baromètres qui se veulent être performatifs, notamment avec cette idée de notes en dessous de 75 points. Une sanction arrive, ce n'est pas juste un objectif qui n'aurait pas d'incidence concrète, on va dire. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ce baromètre-là qui existe. Il y a un autre baromètre qui a été assez contesté aussi, qui, lui, pour le coup, a été avisé international. C'est le fameux baromètre établi par la société Equilip, qui compare 3795 grandes sociétés de 23 pays. Et à croire ces résultats, la France est plutôt mauvaise élève, là, pour le coup, Anne Boring.
Alors, la France est plutôt bonne élève par rapport aux autres pays, mais là aussi, dans l'absolu, la marge de progression est toujours très forte, et notamment sur la question de l'inégalité salariale. Mais il y a plein d'autres points aussi que maintenant, justement, ces index commencent à regarder, et comme par exemple, est-ce que les entreprises avec lesquelles on fait affaire sont des entreprises qui elles-mêmes mettent en place l'égalité professionnelle, etc. Donc ça, c'est des critères aussi qu'on peut prendre en compte et qui sont plus larges.
France Culture, entendez-vous l'écho. Alia Tovine.
Alors, on l'a entendu, le combat reste encore à mener sur de très nombreux plans. Reste donc à savoir comment cette lutte est menée et comment les modalités de la mobilisation évoluent. Il faut peut-être commencer par rappeler que la présence des femmes dans les grèves, qui est un des leviers majeurs de la mobilisation, cette présence-là, elle n'est pas nouvelle. Et Eve Meuret-Canfort, je sais que vous avez étudié ces questions de près. Est-ce qu'on peut dire que les femmes luttent au même titre que les hommes au sein des usines, et ce, dès les années 70, Eve Meuret-Canfort?
Oui, alors c'est toujours ce que les sociologues et les historiennes disent de ça, c'est-à-dire que il y a un éternel renouvel. Enfin, on a l'impression de redécouvrir à chaque fois la mobilisation des femmes, et c'est en fait ce déni d'intériorité, comme dirait une collègue, Delphine Naudier, qui est étonnant à chaque fois. On s'étonne toujours de voir les femmes se mobiliser, alors qu'en effet elles se sont toujours mobilisées et depuis les années 70, mais même avant. Après, c'est pas forcément dans les mêmes proportions et dans les mêmes secteurs et dans les mêmes de la même manière. Et c'est bien justement la particularité de ces années, donc post-mai 68, toute cette période des années 70, que de voir émerger, disons, dans la scène publique et de syndicale et de mobilisation, de nouveaux et nouvelles acteurs et actrices, c'est-à-dire des ouvriers, ouvrières immigrées, des femmes. Et c'est quelque chose qui apparaît comme nouveau à l'époque, parce que il y a une prise de parole qui est plus autonome que par le passé, avec des grèves de femmes, des grèves d'ouvriers immigrés. Et voilà, donc c'est sûr que ça fait émerger une parole qui, à ce moment-là, était moins audible avant.
Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, parce que vous avez étudié plus spécifiquement les mobilisations dans l'entreprise de lingerie féminine Chantel, et ce depuis les années 70. Voilà, vous parlez du contexte post-68. Il faut savoir que cette entreprise, elle est composée à 90% d'effectifs féminins. Alors, dans quelle mesure les syndicats prennent en compte cette spécificité démographique, finalement, dans leurs revendications, et qui lutte, en fait, selon les syndicats? Est-ce que ce sont des femmes ou est-ce que ce sont des ouvrières?
Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question, c'est délicat, parce que du coup, c'est pas qu'une une réalité démographique, parce que, comme ça a été déjà dit plusieurs fois, les secteurs, disons, féminisés particulièrement, ont quand même des caractéristiques, dans le sens où ces métiers sont beaucoup plus difficilement reconnus et valorisés, y compris d'ailleurs dans la façon dont les statistiques publiques les envisagent, enfin bref. Et donc, c'est des réalités qui sont assez spécifiques, et les syndicats, dès ces années-là, cherchent à mobiliser ces secteurs. Et en effet, il y a comme dans cette période des années 70, qui voit aussi émerger le mouvement féministe dit de la deuxième vague, il y a une forme de concurrence pour les ouvrières entre organisations syndicales et mouvements féministes, parce que du coup, des organisations syndicales qui sont tout à fait, pour certaines, promptes à soutenir des grèves de femmes, mais dans un cadre, disons, rhétorique et militant, syndical, proprement syndical, avec une difficulté justement à sortir, en fait, de la des problématiques qui sont directement liées au travail salarié, donc c'est-à-dire à tout ce que notamment Sophie Pochic a évoqué au début de travail reproductif, et tous ces enjeux-là ont vraiment du mal à trouver leur place dans la sphère syndicale. Et d'un autre côté, un mouvement féministe qui, du point de vue des ouvrières elles-mêmes en tout cas, apparaît assez lointain socialement, c'est-à-dire que là, voilà, ça apparaît comme un mouvement plutôt bourgeois, plutôt parisien. C'est des choses qui sont assez connues, mais qu'on retrouve vraiment, notamment voilà, à Chantelle notamment, avec une difficulté à s'approprier les revendications féministes en tant que telles, puisqu'elles luttent quand même d'abord pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de salaire.
Un soutien-gorge, il y a une vingtaine d'opérations. Chaque opération est marquée sur une fiche, et chaque fille, donc, quand elle a fini son bac, peut prendre un ticket, et son temps est indiqué. Alors elle colle son ticket sur sa feuille de production journalière, et à la fin de la journée, pour avoir son rendement, c'est-à-dire pour avoir 480 minutes, donc une journée de 8 heures, il faut qu'elle ait le temps passé de tous ces tickets, la totalité de tous ces tickets, il faut qu'ils correspondent à 480 minutes. Et là, elle a son rendement. Mais ce n'est pas possible. Et en plus, on nous dit, là maintenant, on a reçu une lettre, toi, c'est de l'intimidation patronale, de toute façon. On a reçu une lettre comme quoi on n'avait pas à se plaindre chez Chantelle parce qu'on avait 10 minutes de pause payée matin et après-midi. Alors je veux dire que c'est faux parce que les 10 minutes, elles sont comprises dans le temps de travail, dans le temps du ticket, et que beaucoup d'ouvrières ne peuvent pas les prendre ces 10 minutes parce qu'elles n'arrivent pas à faire leur rendement.
Normalement, je devrais prendre mes 10 minutes de pause le matin et mes 10 minutes de pause l'après-midi, sans compter bon, les toilettes. Moi, je me suis vue pendant un temps, les premières années de point d'arrêt, à me retenir pour aller au water. D'ailleurs, j'en ai presque la larme à l'œil. Je pensais à ça parce que c'était assez dur.
On entendait à l'instant le témoignage d'une ouvrière de Chantelle en 1981, lors de la grève de l'hiver 81-82, qui est marquée par l'occupation de l'usine et notamment par la séquestration de son patron. Vous dites, Eve Meret-Campor, qu'il y a eu une certaine fierté chez ces femmes à se battre comme des mecs, pour reprendre le titre de votre ouvrage. Comment on peut le comprendre, cette fierté ?
Parce que à l'époque, disons que la fierté ouvrière, au grand sens du terme, c'est-à-dire voilà, en référence au mouvement ouvrier, à toutes les luttes passées, notamment dans la région nantaise, il y a eu des grandes luttes en 1955. Il y a beaucoup de luttes dans la métallurgie. Enfin, c'est le milieu, disons, militant syndical nantais particulièrement est masculin. Et pour ces femmes, en fait, faire grève, occuper leur usine, séquestrer leur directeur, ce sont des modes d'action qui sont pensés par elles comme étant ceux des hommes. Et en fait, en s'appropriant ces outils de lutte, elles s'approprient aussi une forme de fierté et une forme de fierté collective, et qui pour elle est très importante, puisque les mobilisations de femmes, donc c'est-à-dire quand il y a vraiment une majorité de femmes dans l'usine comme chez Chantelle ou dans d'autres endroits, ça pose des questions pratico-pratiques de gestion du temps par rapport au temps domestique notamment, et des questions de légitimité à lutter, de légitimité à être là, à prendre la parole, à investir l'espace public en tant que femme, en tant que collectif de femmes. Et donc, c'est s'inscrire vraiment dans la lignée du mouvement ouvrier tel qu'il se déploie à ce moment-là, c'est aussi une façon de défendre sa place et de défendre sa légitimité à prendre cette place-là, enfin cette parole-là, quoi.
Sophie Pochic, les grèves ont lieu au tout début des années 80. Les années 80, c'est aussi un contexte où les syndicats se rendent compte de la nécessité de mobiliser les femmes pour faire avancer leur cause en tant que syndicat.
Oui, tout à fait. C'est vrai que les organisations syndicales, progressivement, se sont de plus en plus intéressées à intégrer à la fois les femmes comme adhérentes et leurs intérêts éventuels spécifiques. C'est particulièrement depuis les années 70, en fait, hein, parce que comme le montre l'enquête d'Eve Meret, les années 70, c'est les années d'insubordination ouvrière, et il y a eu des luttes de femmes, dans les usines, ça a pu être aussi dans des usines de services, comme les chèques postaux, par exemple, où on avait vraiment une taylorisation des activités du tertiaire, et elles se sont intéressées à la fois de manière stratégique pour encadrer certaines luttes symbolique, mais aussi syndiquer des secteurs, et de plus en plus, la croissance de l'emploi étant dans les secteurs de services, l'idée c'était de rester représentatif, surtout qu'il y a un mouvement de désindustrialisation. Elles ont été aussi poussées de l'intérieur par les militantes féministes à s'intéresser à ces femmes et à travailler aussi sur le déficit démocratique au sens où il y avait peut-être des adhérentes à la base, mais en fait, dans les permanents, il y avait surtout des hommes. Et puis, progressivement, les fédérations de services ont aussi pris de plus en plus de place dans les organisations syndicales au niveau national, parce qu'il y a la croissance de l'emploi est portée par le service. Donc, cet élément, il est important à souligner, mais je voudrais quand même rappeler, puisqu'on parle de lutte de femmes au travail et de la question des luttes encadrées par les syndicats, qu'on parle de la France, où le taux de syndicalisation est extrêmement faible. Là, on peut partir dans les comparaisons internationales. On est plutôt la lanterne rouge des pays de l'OCDE. Hein. Il y a 12%, enfin, non, exactement 10,3% de salariés syndiqués en 2019 en France. Dans le secteur privé, c'est que 7,8%. C'est 18,4% dans le secteur public. Et il y a un écart de 2% en défaveur des femmes. Les hommes sont plus syndiqués que les femmes. Il y a une augmentation de la féminisation des adhérents, mais il y a toujours un écart entre leur place dans la population active, 47%, et 36% parmi l'ensemble des adhérents de toutes les organisations syndicales. Certes, c'est en évolution, hein, si on compare avec les 9% en 1911 qui avaient été calculés par Madeleine Guilbert, les femmes ont pris leur place, mais c'est toujours une place un peu minorée. Et on peut l'expliquer, peut-être Safia pourra intervenir là-dessus, s'il y a un effet de secteur extrêmement fort. C'est-à-dire, dans les métiers de service, dans les métiers de femmes, elles sont concentrées, auxiliaires de vie, femmes de ménage, vendeuses, c'est des déserts syndicaux, en fait. Et il y a très peu de droits syndicaux, et y mener la lutte est très difficile.
Et effectivement, il existe de très nombreux freins à la syndicalisation et à la perception même de la pertinence de ce syndiqué. Safia Doumain, qu'effectivement, de votre côté, vous avez étudié les grèves entreprises par des travailleuses du nettoyage à Lyon et à Marseille, et vous avez observé en 2017 et en 2018, c'est un poste d'observation privilégié dans le sens où il est emblématique, selon vous, des liens entre travail féminin et précarité.
Oui, tout à fait. C'est vrai, je rejoins tout à fait tout ce qui vient d'être dit, les secteurs dans lesquels on retrouve le plus de femmes parmi les femmes précaires, hein, sont des secteurs où en fait il y a assez peu d'implantation syndicale pour plusieurs raisons. Déjà parce que on le sait, le syndicalisme s'implante plus facilement dans les entreprises de plus grande taille. Il faut la stabilité dans l'emploi garantit un petit peu aussi le fait de prendre une adhésion. Et or, dans les secteurs précaires que j'ai étudiés, par exemple le nettoyage, en fait, on a un assez fort turnover du fait des pénibilités dont je parlais au début aussi. C'est des métiers qui sont difficiles, c'est des métiers dans lesquels on se blesse, dans lesquels quand on a un enfant, il est parfois finalement pas si intéressant de ça, de continuer à travailler tout en faisant, en payant quelqu'un pour faire garder son enfant. Donc voilà, toutes ces raisons-là expliquent aussi que ce sont des métiers où il y a un fort turnover. Mais néanmoins, il existe des possibilités de syndicalisation. J'ai justement observé des grèves dans ces secteurs féminins où...
La mobilisation n'était pas forcément évidente. Et d'ailleurs, c'est ce que nous raconte aussi le film Gloria Mundi, dont on écoute tout de suite un extrait.
Dis-moi... T'es avec nous pour parler de la grève ?
La grève ?
Ouais, on va se réunir pour décider, t'es pas au courant ?
Mais je l'ai déjà dit aux autres, comptez pas sur moi. J'ai besoin de mes sous.
Viens au moins en réunion, qu'on soit solidaires.
Solidaires avec qui ? Avec le paysan, il a bouffé, lui. Avec le cheminot, à mon âge, il est déjà à la retraite.
Oh, Sylvie, un peu de hauteur de vue, merde.
Pour ce que je nettoie, j'ai pas besoin de hauteur. Moi, c'est le sol que je vois. Et il faut que je tienne encore 3 ans. J'ai pas le choix.
Voilà, on entendait, hein, Safia Doumain, qu'on retrouve là cette problématique finalement d'une forme de précarité qui vient potentiellement entraver la volonté et la possibilité de mobilisation. Qu'est-ce qui fait que dans le cas des femmes de ménage que vous avez pu observer, avec qui vous avez mené vos recherches, qu'est-ce qui fait que la mobilisation s'est malgré tout concrétisée ?
Alors, il y a plusieurs choses. Moi, justement, j'ai mené mon enquête en comparant deux villes, parce que à Marseille, il y avait plusieurs mobilisations qui avaient pris, qui se répétaient sur certains hôtels, avec jusqu'à quatre grèves au sein d'un même hôtel, durant mon enquête qui a duré elle-même 4 ans. À Lyon, j'observais également le même syndicat, la CNT Solidarité Ouvrière. En fait, il y avait assez peu de mobilisations syndicales dans le secteur hôtelier. Et donc j'ai essayé de comprendre un peu qu'est-ce qui pouvait expliquer que ça prenait dans un cas et pas vraiment dans l'autre. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'à Marseille, les salariés que je rencontrais, qui étaient syndiqués donc à la CNTSO, qui travaillaient dans l'hôtellerie, étaient du fait de la un petit peu de ben de l'accès au logement pour les classes populaires à Marseille qui se fait plus facilement, les loyers sont un peu plus accessibles dans le centre-ville de Marseille, là où à Lyon on a vraiment une difficulté pour les classes populaires à se loger dans le centre-ville. Et donc en fait les salariés que j'ai rencontrés à Marseille étaient pour la plupart résidents dans le quartier de la Belle de Mai et se côtoyaient aussi sur des scènes, des sphères quotidiennes hors travail et pas seulement dans le travail et dans le syndicat. Et en fait ce que j'ai pu essayer de montrer, c'est que c'est en raison de ces réseaux d'interconnaissance, déjà qu'elle trouvait du travail dans le nettoyage. Souvent, on se passe le mot d'un poste qui est libre dans le nettoyage, voilà, par interconnaissance. Et de la même manière, en fait, elle se passait aussi le mot du syndicat, de l'existence d'un syndicat et de l'existence de lutte. Et voilà, ça, il me semblait que c'était assez important. Après, c'est pas des choses qui sont nouvelles, entre guillemets, hein. Le syndicalisme s'est toujours appuyé, depuis son histoire, sur aussi le territoire, tout l'enjeu des unions locales et de l'implantation locale du syndicalisme. Mais c'est pas forcément dominant aujourd'hui dans les syndicats, cette structuration au niveau local et la recherche d'appui sur le territoire. Et voilà, ça me semblait intéressant.
Et tout à fait. Et Ève Murray-Campor, de votre côté, et à l'aune de la mobilisation à Chanterelle, comment naît finalement la solidarité de classe, alors qu'elle soit en l'occurrence entre femmes, puisque c'est les effectifs de Chanterelle, mais comment naît cette solidarité-là dans des milieux de travail où ces formes de mobilisation sont quand même largement découragées? Quel est le déclic finalement?
Oui, alors juste, c'est Chantelle et pas Chanterelle.
Oui, pardon. Mais,
oui, ben en fait, en effet, vous avez raison, c'est-à-dire que leur quelque part leur non-mixité, elle n'est pas seulement de genre, elle est aussi de classe, parce que ce sont des femmes qui se ressemblent beaucoup socialement. Donc déjà, l'aspect local, je rejoins Safia, est très important dans le sens où là, ça joue sur un ancrage local assez fort. C'est-à-dire que ce sont des femmes entre guillemets du coin qui ont grandi là, qui se connaissent. Une partie d'entre elles se connaissaient avant l'usine. Et puis il y a donc cette, elles sont toutes à peu près issues, voilà, des milieux, des mêmes milieux, des milieux sociaux plutôt ouvriers. Donc celles qui vont, parce que parmi toutes les plusieurs centaines de personnes qui passent chez Chantelle au début, seulement quelques-unes se lancent dans une dynamique d'engagement syndical très tôt. Et celles-là sont des filles de militants. Voilà, c'est des choses qui sont bien connues. C'est des femmes qui ont déjà été socialisées au syndicalisme dans leur famille et qui du coup créent l'impulsion. Et c'est là où les enjeux de non-mixité sont très importants, dans le sens où, en créant cette impulsion, elle crée des modèles au sein de cette usine qui est quand même pas très grande, donc les gens se connaissent assez facilement. Et pour des femmes qui sont plus éloignées du syndicalisme, de voir d'autres femmes ouvrières prendre la parole et prendre des postes de déléguées syndicales et donc de responsabilité, en tout cas à l'échelle de l'entreprise, c'est très important. Et en fait, un autre élément important chez Chantelle, mais qui est vrai dans d'autres usines d'habillement et dans le monde du travail, un peu moins aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, il y avait une partie d'entre elles sont restées longtemps dans l'usine, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'elles finissent par grandir ensemble, en fait. Elles ont leurs premiers enfants ensemble, elles sortent en dehors. Enfin bref, elles ont tout un ensemble de sociabilité qui les réunit au-delà de la sphère du travail elle-même. Et elles finissent par se ressembler beaucoup.
Safia Doumenc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la grève des travailleuses de l'hôtel Easy House, qui avait été soutenue, donc vous le disiez, par la CNTSO, a réussi quelque part, et vous qualifiez dans un de vos articles cette réussite d'exceptionnelle. Pourquoi cela ?
Oui, alors c'est anonymisé, du coup j'ai eu du mal à remettre l'hôtel, le vrai, mais oui c'est bon, j'ai remis. En fait c'est un hôtel dans lequel justement, j'en parlais tout à l'heure, il y a eu 4 conflits et à l'issue, le dernier conflit a donné lieu à une réinternalisation des salariés du nettoyage, justement, parce que c'est un des gros fléaux dans ce secteur, l'externalisation, on n'en a pas encore parlé. Mais justement, pour gagner, enfin, pour faire des économies, les hôtels sous-traitent le nettoyage des chambres à des sociétés spécialisées du nettoyage, qui, du coup, deviennent ce sont elles les employeurs des femmes de chambre dans les hôtels. Ce ne sont pas les hôtels. Les hôtels sont que les donneurs d'ordre. Et donc, dans ce fameux hôtel Easy House, qui n'est pas son vrai nom, donc, en fait, les salariés, à mesure des différents conflits qu'elles menaient sur l'hôtel, avaient obtenu des revalorisations salariales, des primes de panier, un 13e mois, enfin, tout un tas d'acquis sociaux. Donc là, justement, c'est un autre point original de ces grèves de femmes de chambre, c'est qu'on n'est pas seulement dans des grèves défensives où on défend des droits qu'on aurait perdus à mesure que les années passent. On est vraiment dans des grèves aussi voilà, qui revendiquent de nouveaux droits, de nouveaux acquis. Et donc, bref, tout ça pour dire que avec ces acquis qu'elles avaient obtenus, elles coûtaient quelque part trop cher pour les sociétés de nettoyage, et donc c'était plus un chantier entre guillemets rentable. Donc les sociétés de nettoyage se cumulaient un petit peu sur cet hôtel, et l'hôtel a fini par internaliser les salariés. Mais ça, c'est assez rare. Ça a été le cas aussi à Paris dans plusieurs hôtels qui avaient été soutenus par la CGT-HPE. Mais c'est un des mots d'ordre, hein, du syndicalisme dans le secteur de l'hôtellerie, de réinternaliser ces prestations-là. Mais bon, c'est assez exceptionnel, justement, parce que ça reste rare, quoi.
Et puis, je crois aussi qu'il y a la mobilisation d'outils juridiques qui a permis de faire avancer les choses et qui était aussi relativement inhabituelle. Sophie Pochic, cette possibilité-là pour les femmes, que ce soit dans ou en dehors des syndicats, cette possibilité-là, elle est réelle, mais elle comporte certains risques, c'est ce que vous dites. Sur la mobilisation d'outils juridiques pour faire avancer les droits des femmes.
La mobilisation d'outils juridiques, c'est vrai que c'est une action possible de faire des procès individuels ou des procès collectifs, notamment sur les questions de discrimination salariale, discrimination à la grossesse. C'est une voie qui est beaucoup défendue en fait par les syndicats dans les pays où le droit du travail est faible. Au Royaume-Uni, aux États-Unis, il y a eu les grands procès autour de Walmart, par exemple, pour faire reconnaître une discrimination salariale systémique en défaveur des femmes. Mais évidemment, en face, on a des employeurs qui se défendent avec des avocats, pied à pied. Donc, c'est des procès qui sont assez longs, qui peuvent être utilisés c'est en fait la notion de strategic litigation, c'est on l'utilise pour en faire un symbole et faire jurisprudence. Et donc, pour essayer de faire un levier pour améliorer la loi ou un levier pour la négociation collective. Au Royaume-Uni, ça a marché notamment pour essayer de lutter contre l'externalisation dans les services publics. Donc, ça fait un lien avec ce que disait Safia Doumenc sur les questions de cantine scolaire, par exemple, ou de nettoyage. Mais c'est long, c'est coûteux, c'est risqué. Et donc la CGT en France utilisait peu cette voie, l'a utilisée pour la discrimination syndicale, mais peu la discrimination salariale. Actuellement, avec l'action de groupe, a saisi, il y a un procès en cours contre Caisse Crédit Agricole, il y a eu un procès victorieux autour de la discrimination salariale, mais ça c'est pour des femmes ingénieures, ST Microelectronics. Donc c'est par rapport à cette, elle est possible, elle permet de montrer les décalages entre le droit et les pratiques des employeurs, mais les effets positifs, c'est uniquement pour ceux et celles qui ont saisi le droit, donc c'est un effet de réparation pour un groupe et pas obligatoirement pour l'ensemble des femmes. Mais je ne veux pas jeter du tout la possibilité de l'action par la voie juridique, mais on le sait pour les violences sexistes et sexuelles, malheureusement le chemin est encore long et pas toujours en faveur des victimes.
Eve Meret-Campor, je crois que vous vouliez réagir.
Oui, par rapport à tout cela, en fait, justement, c'est des secteurs, donc les secteurs comme celui du nettoyage, mais aussi, par exemple, l'aide à domicile, qui est un secteur sur lequel je travaille actuellement et sur lequel travaille aussi d'ailleurs Safia Doumenc. On sait que ces secteurs-là, en fait, posent beaucoup de défis aux organisations syndicales, parce que tous ces enjeux d'externalisation qui créent en fait une multiplicité des donneurs d'ordre, des employeurs, et puis le secteur de l'aide à domicile, par exemple, qui est très segmenté en fait entre différentes conventions collectives. collectives, différentes branches syndicales. Et donc, c'est vrai qu'on a vu émerger dans ces secteurs-là, comme dans d'autres, des mobilisations hors syndicats. Et notamment, voilà, je voulais juste évoquer par rapport à, suite à la pandémie et au Covid, dans les métiers de l'aide à domicile et tout le collectif de la force invisible des aides à domicile qui, après une partie, est devenu le collectif des essentiels des liens, des métiers des liens, du lien et du soin. Et en fait, c'est des métiers où c'est pas anodin que de la base naissent des mobilisations qui tentent de faire du lien justement entre différents métiers qui partagent des problématiques communes, de manque de reconnaissance, de très faibles salaires, etc.
Nous continuons notre discussion sur les revendications des femmes face au marché du travail juste après 9 to 5 de Dolly Parton, sortie dans le contexte très Working Girl des années 80. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Comment défendre les intérêts des femmes au travail, c'est le sujet d'Entendez-vous l'écho. Aujourd'hui sur France Culture, une émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Félix Delacour. Alors au-delà des mobilisations syndicales dont on vient d'évoquer l'efficacité mais aussi les freins, il faut dire que la question devient progressivement, mais de façon très concrète, un enjeu de politique publique. Au nom de quoi, Anne Boring, la loi commence à vouloir réglementer cet aspect du travail?
Alors il y a eu plusieurs étapes. D'une part, évidemment, les syndicats ont joué leur rôle, les mouvements féministes aussi. Il y a eu la crise financière de 2008 qui a aussi créé du changement, notamment par l'argument Lehman Sisters, qui avait été mis en avant à l'époque par Nelly Kroes, qui était commissaire européenne, et qui disait qu'en gros, si Lehman Brothers avait eu plus de femmes et que le métier de la finance était davantage féminisé, notamment dans les postes à responsabilité, peut-être que ces entreprises auraient pris moins de risques et donc on n'aurait pas connu la crise financière. Et donc à partir de 2008, on voit tous les grands cabinets de conseil publier des rapports annuels défendant ce qu'on appelle le business case pour l'égalité femmes-hommes, qui dit qu'en gros, les entreprises performeraient mieux si il y avait davantage de mixité dans les postes à responsabilité à tous les échelons de la hiérarchie.
Et du reste, Sophie Pochic, les politiques publiques en faveur de l'égalité hommes-femmes passent aussi, voire beaucoup, par notamment des quotas sur les conseils d'administration et sont très liés finalement à une certaine aisance aussi économique des entreprises auxquelles elles s'adressent. En tout cas, il y a presque une idée d'une forme d'élitisme liée à l'égalité femmes-hommes.
Alors, Il est vrai qu'il y a eu une mobilisation, notamment des femmes qualifiées aussi, qui ont tenu ce discours en disant « mais donnez-nous les rênes des entreprises, on va mieux s'en occuper ». Et surtout, nous avons les compétences pour le faire, mais nous heurtons à un plafond de verre. Et elles ont réussi à faire passer au niveau France la loi Copé-Zimmermann, mais dans tous les autres pays, au niveau Union européenne, progressivement on le voit, des quotas pour féminiser les conseils d'administration. Et ça a eu des effets bénéfiques. Ça a obligé à professionnaliser les administrateurs, par exemple. C'est moins la cooptation entre grands patrons. Mais on voit, moi j'ai souligné une tendance à ce que j'ai appelé les politiques d'égalité élitiste, dans le sens où l'autre voie, c'est la négociation collective en matière d'égalité professionnelle. On n'en a pas encore parlé.
Tout à fait.
En France, en fait, l'État, depuis 1983, avec la loi Roudy, en fait, délègue aux entreprises et aux branches le fait de façonner des politiques d'égalité professionnelle sur les lieux de travail. Alors, il y a toute une évolution, obligation de mesurer en 83, d'ouvrir des négociations en 2001, d'intégrer l'égalité salariale en 2006, sous menace de sanctions financières en 2010, et de rendre public un index en 2008. Donc, on voit tout un ensemble de lois où, en fait, l'État pousse la négociation collective à intégrer l'égalité de rémunération et l'égalité professionnelle. Et donc, nous avons fait toute une étude de ce que produisait cette négociation collective au niveau de l'entreprise. Et donc, le résultat était qu'il y a une tendance, cette négociation, elle bénéficie plutôt aux femmes cadres et aux problèmes de cadres, notamment parce que avec le business case, finalement, investir au nom de la performance dans l'égalité, ça s'est réduit surtout à investir sur les performantes, leurs problèmes de plafond de verre et d'articulation travail-famille. Ça a bénéficié aux hommes aussi, avec l'idée de fidéliser des jeunes pères désormais attentifs à ces questions-là. Et par contre, ça n'a pas du tout bénéficié. Les problèmes des femmes du bas de l'échelle qui nous ont été évoqués par Safien et par Ève, les problèmes des ouvrières et des employés, la pénibilité du travail, les horaires atypiques, etc., ne sont presque pas pris en compte par les accords négociés en matière d'égalité. Donc, il y a vraiment l'idée que considérer que l'égalité, elle est négociable au niveau de l'entreprise, malheureusement, en fait, ça produit plus de droits pour les femmes qualifiées et pas davantage de droits pour les femmes peu qualifiées. Et donc, ça augmente même presque les droits au sein des femmes.
Et ce qui est intéressant avec cette notion de négociation finalement un peu au sein de chaque entreprise et de cette délégation des politiques publiques au sein de l'entreprise, et c'est ce que vous dites notamment Sophie Pochic dans un de vos articles, c'est que ça laisse un peu le pouvoir aux managers aussi d'être des militants de l'intérieur, ce qui est quand même ce qui représente un biais. Et d'ailleurs, Anne Boring, l'idée aussi de laisser les entreprises faire, ça peut engendrer des tensions, ça peut engendrer de la conflictualité au sein même des entreprises.
Oui, donc on le voit notamment avec les politiques de quotas, donc on entend très souvent l'argument comme quoi si une femme est promue, c'est parce que justement il y a ces politiques de mixité qui sont mises en place et pas forcément parce qu'elle serait plus compétente, etc. Après, on peut toujours trouver des raisons pour ne pas promouvoir des femmes. La réalité, c'est que plutôt, en fait, ces lois permettent à des femmes compétentes justement d'avoir accès à des postes, alors que jusque-là, leurs compétences étaient plutôt moins reconnues qu'objectivement. Donc le fait de mettre en place ces politiques, en fait, c'est vrai que c'est un peu plus facile pour les grands groupes de les mettre en place parce qu'ils ont des départements de ressources humaines structurés. Ils peuvent mesurer les compétences de façon beaucoup plus précise parce qu'ils en ont les moyens de leurs employés, et notamment des cadres. Les politiques RH ont suffisamment d'observations pour pouvoir comparer aussi les salaires entre personnes qui ont des postes similaires. La ségrégation que l'on voit sur le marché du travail qui fait que les hommes et les femmes n'occupent pas le même type d'occupation. C'est vrai que dans les très grands groupes, au final, on va avoir une mixité aussi d'hommes et de femmes qui travaillent pour ces entreprises. Donc c'est vrai que pour elles, c'est un peu plus facile de mettre en place. On dit ça, mais on a dû quand même aussi, en France, mettre en place une loi de quotas au niveau des comités exécutifs, parce que quand bien même ces lois bénéficient aux femmes cadres et aux femmes qualifiées, en fait, on est toujours à environ 30% de femmes dans des positions de COMEX, niveau COMEX, et donc et de responsabilité, enfin même pas 30%. Donc il y a encore là aussi un très long chemin à parcourir.
Et presque d'un point de vue sociologique, comment les hommes, finalement, dans les entreprises, perçoivent cette volonté-là?
Oui, donc et l'autre souci, c'est que certaines de ces politiques peuvent avoir des effets qui vont être, à titre individuel pour certains hommes, négatifs. Donc c'est vrai que si on met en place une politique de quotas qui vise à favoriser l'accès des femmes à des postes à responsabilité, à moins d'augmenter le nombre de postes à responsabilité, ça veut dire que certains hommes auront moins de chances d'être promus. Et donc ça génère des résistances en entreprise. On voit aussi les politiques de transparence salariale qui ont été mises en place dans de nombreux pays de l'OCDE. Les premières études des économistes qui portent sur l'impact de ces politiques de transparence salariale montrent qu'au lieu d'aligner les rémunérations des femmes sur ceux des hommes, de manière à réduire les inégalités, ce qui s'est réellement produit, c'est que les entreprises se sont mises à négocier plus durement avec leurs employés, notamment leurs cadres hommes, pour éviter de leur donner davantage d'augmentation salariale.
C'est un nivellement par le bas.
Donc du coup, c'est un nivellement par le bas. C'était pas l'intention initiale. L'intention initiale, c'était justement de permettre à des femmes d'avoir accès à des rémunérations plus élevées. Et donc forcément, les hommes qui voient leur courbe de rémunération ne pas augmenter telle qu'ils l'auraient souhaité, bah ils vont pas apprécier ce type de politique. Donc je pense que c'est extrêmement important et on est de plus en plus nombreux à étudier ces questions-là. C'est en fait quelles sont les meilleures politiques, les plus efficaces qui génèrent le moins d'opposition et les moins de freins, de manière à ce que, de façon durable, on puisse vraiment améliorer l'égalité femmes-hommes sur le marché du travail.
Sophie Pochic, est-ce qu'une façon d'avancer aussi de façon efficace pourrait être de mobiliser le droit européen? Normalement, il y a la perspective de voir de nouvelles règles sur la transparence des rémunérations être retranscrites dans le droit français. Est-ce que ça permet finalement de lisser les choses et d'avancer plus vite?
Il y a l'idée effectivement qu'avec la directive européenne sur la transparence salariale, que tous les pays doivent transposer à mi-2025, il y aura pas de concurrence entre pays moins 10 ans social. Hein. Donc ça, c'est important aussi, hein, parce que cette question de l'égalité salariale se pose dans un système capitaliste avec une grande volatilité du capital, avec des entreprises qui cherchent aussi des secteurs où la main d'œuvre est la moins chère. Donc c'est très important. Et d'ailleurs, cette directive, elle est demandée par la Conférence européenne des syndicats qui a bataillé pendant des années pour cette directive. Et cette directive, elle vise à la fois obliger à mesurer avec des indicateurs, notamment sur la concentration dans les bas salaires. Donc ça me paraît vraiment être une avancée. Obliger aussi à se pencher sur cette question du principe international de salaire égal, non pas pour simplement un travail égal, un poste équivalent, mais pour un poste de valeur égale, avec l'idée donc de revaloriser notamment les métiers peu qualifiés, et ça s'inspire d'exemples internationaux, notamment les lois sur l'équité salariale au Québec, qui nous font souvent assez rêver, parce que c'est vraiment l'idée au sein des entreprises de mettre en place une méthode conjointe d'analyse concertée. Et au Québec, il n'y a pas eu de conflit fort, de résistance. Il y a très peu eu de sanctions. C'est un pays plus syndiqué, c'est plus petit aussi. Mais ça a permis de réduire les écarts de rémunération avec un mouvement vers le haut. Et pas comme Anne le soulignait, ça peut être aussi une réduction des écarts, mais en tirant les salaires des hommes vers le bas. Ce qui ne serait évidemment bénéfique pour personne.
Eh bien, espérons effectivement que le mouvement aille vers le haut pour tout le monde. Merci pour ces mots de conclusion. Et un grand merci à toutes les quatre, Safia Douminck, Eve Murray-Campor, Anne Boring et Sophie Pochic, d'avoir participé à cette émission. Une émission qui se poursuit tout de suite avec la chronique de Dominique Méda.
Pourquoi l'égalité homme-femme patine-t-elle? Chaque 8 mars, nous égrenons la longue liste des inégalités qui persistent entre les femmes et les hommes. Pourquoi les choses progressent-elles si lentement? Le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a récemment tiré la sonnette d'alarme. Loin d'être en voie de disparition, le sexisme progresse, particulièrement dans les jeunes générations. Et pendant ce temps, les avancées sur le front de l'emploi sont d'une lenteur parfois désespérante. Certes, le niveau d'éducation des filles et des femmes a fortement progressé ce dernier demi-siècle. On sait que les femmes françaises sont depuis une vingtaine d'années plus diplômées que les hommes. Mais elles continuent malgré tout à occuper des emplois dans un nombre de secteurs et de métiers moins étendus que les hommes et moins bien rémunérés, ce qui constitue une forme de scandale et de désincitation à faire des études. Pendant que les emplois les moins bien payés sont majoritairement occupés par des femmes, comme l'ont mis en évidence les travaux consacrés aux travailleuses et travailleurs de la deuxième ligne, les femmes qui accèdent à la catégorie cadre présentent des écarts de salaire avec les hommes parmi les plus importants. Nicole et Jean Gadret ont mis en évidence dans leurs travaux que si plus de 62% des hommes ayant un niveau égal au supérieur à Bac plus 3 occupaient un poste de cadre, ce n'était le cas que de 36% des femmes. En 2001, dans l'ouvrage que j'avais consacré à cette question, intitulé « Le temps des femmes pour un nouveau partage des rôles », je défendais la thèse que la société française ne s'était pas radicalement adaptée à la montée de l'activité féminine, pourtant condition indispensable et sine qua non à l'indépendance des femmes. Toutes les études dont on dispose montrent que l'arrivée d'un enfant constitue un choc très fort sur l'activité féminine. Avoir plusieurs jeunes enfants s'accompagne d'une diminution du taux d'activité des mères, et d'une augmentation du taux d'activité des pères. Mais les modes d'accueil des jeunes enfants continuent d'être en quantité insuffisante. Le service public de la petite enfance, dont il est question depuis plus de 20 ans, n'a toujours pas été mis en place. Les entreprises continuent à discriminer les femmes en les considérant comme des mères en puissance, soupçonnées de risquer de limiter leur investissement professionnel pour s'occuper de leurs enfants. Les hommes, en tant que partenaires et pères, continuent à ne pas prendre en charge la part des tâches domestiques et familiales qui leur incombe, et en tant que professionnels, ils continuent de recruter ou coopter des collègues qui leur ressemblent. La parité est loin d'être la règle dans un très grand nombre d'organisations et d'institutions, même si des progrès sont visibles. À diplôme égal et même supérieur, les femmes continuent d'être moins visibles, moins reconnues, moins payées, selon le principe mis en évidence par Françoise Héritier et toujours en vigueur de « valence différentielle des sexes ». Le rapport 2023 du Haut Conseil à l'égalité des femmes et des hommes livre de ce point de vue des résultats inquiétants. L'idée qu'il est normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants, approuvée par 34% des femmes interrogées, progresse de 7 points. Pourtant, nous savons aujourd'hui que la meilleure manière de soutenir la venue d'enfants est de faciliter la conciliation entre travail et famille pour les hommes et les femmes qui se plaignent à 59% pour les premiers, à 63% pour les secondes, de difficultés en la matière. Les propositions que je faisais en 2001 sont donc plus que jamais d'actualité. Déployer un service public de la petite enfance, repenser les organisations de travail pour les rendre compatibles avec l'exercice de la parentalité pour les hommes et les femmes, améliorer les conditions de travail et les salaires, inciter les hommes à prendre en charge ce que les Myrdal appelaient le « double rôle » de travailleurs et de parents, et continuer à soutenir, comme Baudelot et Establé, Allez les filles.
Merci Dominique pour vous réécouter, c'est sur le site de France Culture et en podcast, évidemment, sur l'application Radio France. On se quitte avec Oli Ouray de la chanteuse Meg Christiane, pilier de la woman's music, soit la musique produite, composée et chantée par des femmes et qui se structure dans les années 70.
Hello, hooray, let the show begin. I'm ready. Hello, hooray, let the lights grow dim. Oh, we've been ready. Ready for the rain to fall, just to fall again. Ready for a woman to be born, only to be born again and again and again and again and again. Hello, hooray, let the show begin. Oh, I'm ready. Hello, hooray, let the lights grow dim. To be born, only to be born again. I've been waiting so long for another song. I've been thinking so long, I was the only one.
à Léa Sabourin qui a programmé cette émission et à Inès Gender qui l'a préparée. Merci également à l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Anouk Millot, Tina Young, Léopold Thiévin, Diane Devancet et Laurence Jeunepin. Merci également à Chantal Nouvello qui a assuré le duplex depuis les studios de Radio France à Lyon et à Miguel Linares qui l'a assuré lui depuis Nantes, depuis France Bleu Loire-Océan. Cette émission est à réécouter sur le site de France Culture, mais également sur l'application Radio France, où vous pouvez la télécharger et même vous abonner à l'émission.